Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de votre émission Les Témoins de l'Invisible, consacrée au phénomène inexpliqué mais bien réel que sont les EMI, les expériences de mort imminente, et les OVNI, objets volants non identifié. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir au bout du fil un monsieur de l'ufologie française, Gilles Dasbourdet, qui consacre une partie de sa vie à l'examen scrupuleux de l'affaire Roswell. On a dit beaucoup de choses sur Roswell et surtout beaucoup de sottises. On en a fait des films et même une série télé. Eh bien, le mieux est encore d'en revenir aux faits et aux innombrables témoignages qui plaident en faveur d'un événement étrange survenu en juillet 1947, non loin de la base des bombardiers atomiques de Roswell, Nouveau-Mexique. Ce travail d'historien, vous l'exposez, Gilles Dasbourdet, dans un livre qui vient de paraître et dont je recommande la lecture à nos auditeurs, Roswell, la vérité, publié aux Presses du Châtelet. Gilles Das, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, une question. En quoi l'affaire Roswell est-elle si importante qu'on décide un jour de lui consacrer, comme vous l'avez fait, une grande partie de son temps libre, de sa vie?
Oui. Eh bien, je dirais que c'est l'un des dossiers OVNI les mieux documentés et qui a le plus grand nombre de témoignages. Et donc, c'est très intéressant d'étudier ça de plus près. L'enjeu est considérable, car si c'est vrai, si on arrive à prouver de façon certaine qu'il y a eu un crash d'OVNI avec des êtres venus d'ailleurs en 1947, c'est un événement considérable, c'est un changement d'époque, pratiquement. Je dis ça tout au début de mon livre, je pose la question, Roswell, serpent de mer au tournant du millénaire, mais dans mon introduction, c'est un véritable tournant historique, si c'est vrai. Actuellement, sur les ovnis, on n'a pas de certitude absolue, il y a beaucoup de gens qui affirment qu'ils existent. Vous savez qu'il y a même toute une branchette de généraux d'aviation qui l'affirment dans un livre récemment, écrit par une journaliste américaine.
Oui, Leslie King.
Donc, disons qu'on est à peu près certain que les ovnis existent. Ça a été dit en France par plusieurs personnalités importantes, comme le général Letty, du rapport du Cometa en 1999, etc. Mais on n'a pas encore fourni de preuves irréfutables, indubitables, non seulement de cette existence des ovnis, mais de contacts, de crash d'ovnis qu'on aurait récupéré. Donc on en est encore un petit peu, si vous voulez, au bord peut-être d'événements considérables, mais on n'y est pas encore tout à fait.
Oui.
Voilà.
Et puis, la reconnaissance de Roswell confirmerait aussi l'hypothèse extraterrestre au sujet des ovnis, parce qu'il n'y a pas que cette hypothèse. Il y a la théorie du contrôle de Jacques Vallée, il y a d'autres théories, l'hypothèse Gaïa, etc. Mais évidemment, si on apprenait d'aventure qu'à Roswell, effectivement, des corps d'humanoïdes ont été découverts, voilà confirmerait l'hypothèse extraterrestre.
Ça serait vraiment là un coup de théâtre formidable, si on prenait. Ça serait vraiment là une date de l'histoire humaine, en fait.
Oui.
C'est quelque chose de... C'est un enjeu qui est presque comparable, on pourrait comparer à la théorie de Copernic sur la Terre tournant autour du Soleil. Depuis cette époque-là, d'ailleurs, il se posait déjà la question à l'époque, Copernic, Galilée, Kepler, tout ça. Ces grands savants de l'époque se posaient la question de l'existence de mondes extraterrestres. Il y a même eu au XVIIe siècle un livre important sur la pluralité des mondes qui a eu beaucoup de succès. Mais on était dans les hypothèses philosophiques. Là, maintenant, on arrive dans le dur. Est-ce que, oui ou non, on a eu des crashs d'OVNI? Est-ce qu'on a trouvé des cadavres, des extraterrestres ou des aliens ou quoi que ce soit? Voilà, donc il y a toute cette discussion qui était philosophique il y a encore pas si longtemps, et maintenant une discussion sur des faits.
Oui, c'est une question journalistique. Finalement, c'est une question qui relève du journalisme aujourd'hui et de l'histoire.
Ah, bah oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, l'un des enquêteurs qui a été au premier rang pour l'affaire de Roswell, c'est Stanton Friedman, qui est physicien, faisait cette plaisanterie ces dernières années, disait que si les grands journaux se donnaient vraiment la peine de résoudre cette question du secret, parce qu'il y a automatiquement il y a une question du secret qui se pose, surtout aux États-Unis. S'ils s'y mettaient vraiment en six mois, ça serait résolu. Ouais.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 8 juillet 1947.
Oui.
Un communiqué de la base de bombardier atomique de Roswell annonce la récupération d'un de ces disques volants qui hantent les cieux des États-Unis depuis quelques mois. Alors, à partir de là, que se passe-t-il?
Eh bien, il se passe que ce communiqué de presse, d'abord, il a fait le tour du monde très vite. Ça a été quand même un événement sensationnel venant des aviateurs qui étaient l'élite de l'aviation américaine. Il faut quand même replacer les choses. C'était la base des bombardiers atomiques. C'était ces aviateurs-là qui avaient bombardé Hiroshima et Nagasaki en 1945, qui avaient encore fait des essais nucléaires à Bikini en 1946, l'année d'avant. C'était l'élite, si on peut dire, de l'armée de l'air. Donc, que des gens comme ça, tout d'un coup, face à un communiqué de presse, pour annoncer la découverte, la récupération d'une de ces fameuses soucoupes volantes dont tout le monde parlait depuis 15 jours, c'était quand même un choc énorme. Or, ça a été démenti le soir même par le général Ramey, commandant la région aérienne depuis le Texas, qui a dit, les aviateurs de Roswell, ils se sont trompés. En fait, ce qu'ils ont récupéré, c'était un ballon météo avec sa cible radar. Et il a convoqué quelques journalistes et photographes et il leur a montré dans son bureau des débris assez pitoyables d'un ballon météo complètement carbonisé au soleil et puis de sa cible radar étalée par terre en morceaux. C'était un matériel extrêmement fragile. Il faut le dire tout de suite que les cibles radar étaient montées sur des baguettes de balsa très fragiles, de 8000 mètres de section. Et n'importe qui peut acheter une baguette de balsa et vérifier la chose. C'est très fragile. Donc, il y avait déjà derrière cette explication était presque aussi extraordinaire, si on veut, que la découverte de l'OVNI. Or, elle a été acceptée tout de suite. Bon, il y a l'armée américaine, l'armée de l'air en particulier, tous ces aviateurs avaient jouissait d'un prestige considérable. C'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On a accepté cette explication et l'affaire a été oubliée pendant une trentaine d'années.
Oui, la nouvelle du crash donc est démentie le soir même par le quartier général de la 8e armée aérienne. Et finalement, il n'est plus du tout question de l'affaire de Roswell durant une trentaine d'années jusqu'à ce qu'un ufologue réputé, vous l'avez cité tout à l'heure, Stanton Friedman.
Oui, voilà, c'est Stanton Friedman. On peut lui rendre hommage quand même. Bon, il s'est un peu trompé par la suite. Il a été un peu trompé par un faux témoin. On pourra en parler un peu plus tard. Mais il a été quand même, il jouait un rôle tout à fait remarquable. Je le connais bien. On peut lui rendre hommage. C'est presque par hasard, mais en fait, qu'il a lors d'une tournée en Floride, qu'il a rencontré un témoin très important, un témoin clé de cette histoire, qui était le major Jesse Marcel, à la retraite en Louisiane. J'ai dit en Floride, donc c'est en Louisiane.
En Louisiane, oui.
Qui lui a révélé que effectivement, il avait participé à la découverte de débris extraordinaires. Et alors, Stanton Friedman et ses amis ont mis du temps à réagir, parce qu'ils ne se rappelaient plus, on ne se rappelait plus de toute cette histoire. Ils ont mis pratiquement 6 mois à se mettre au travail, ils ont commencé à retrouver des articles de journaux de l'époque, qui ont cité des témoins, ils ont retrouvé ces témoins, et de fil en aiguille, on est arrivé peu à peu à reconstituer cette histoire.
Ouais.
Il y a eu un premier livre paru en 1980 qui n'était pas très bon, mais le premier bon livre est paru en 1991, écrit par 2 bons enquêteurs qui ont rassemblé beaucoup de témoins déjà à ce moment-là.
Ouais.
C'était le début, en 1991, véritablement.
Ouais.
L'affaire de Roswell.
Ouais. Alors, ce Jess Marcel dont vous venez de parler, donc, il s'agissait donc de l'ancien officier du renseignement à la base de Roswell en 1945, au moment des faits, et il explique à Stanton Friedman que les débris ramassés sur les terres de Brazel n'avaient mais strictement rien à voir avec les restes d'un ballon météo, comme l'avait dit l'armée à l'époque.
Il savait très bien ce que c'était qu'un ballon météo, il avait même un diplôme de météo, et il se connaissait tout ce qu'il volait à l'époque, mais que ça ne ressemblait absolument à rien de fabrication humaine.
Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces débris et
oui.
de l'enchaînement des faits tels que les rapporte le major Marcel?
Oui, le major Marcel et beaucoup d'autres témoins vont la retrouver.
Oui, on va en parler.
Donc,
des autres témoins.
Il doit y avoir quelque chose comme une centaine de témoins. Moi, j'ai renoncé à les compter parce qu'il y a eu plusieurs livres. Il y en a eu un autre qui est très important que je cite. Bon, là, j'ai cité le premier livre de 91, c'était Kevin Randall et Donald Schmidt, auquel il faut rendre hommage aussi. Et Kevin Randall était un ancien officier lui-même. Et puis, c'est une histoire très militaire, en fait.
Ouais.
Et il y a eu un autre livre, c'est fait par une équipe civile, Tom Carey et Donald Schmidt, le même que l'ancien partenaire de Kevin Randall, mais ils ont écrit un nouveau livre en 2007, qui est également très important parce qu'ils ont réussi à rassembler beaucoup de témoins. Et les enquêtes continuent encore. Ils ont fait encore un nouveau livre qui s'appelle « Les enfants de Roswell » maintenant, parce que c'est plutôt avec les enfants qu'on travaille.
Ben oui.
Parce que la plupart des témoins sont morts maintenant.
Le temps passe, bien sûr, oui. Oui.
Oui. Et alors, la question, votre question, c'était d'écrire un petit peu ces débris.
Voilà.
Eh bien, donc il y avait la première découverte, c'est celle d'un vaste champ de débris qui était fait par un éleveur de moutons local, Mac Brazel, qui est venu à Roswell avec un sac de débris, et ça a déclenché toute l'affaire à l'époque.
Ouais.
Et il y avait parmi les débris, il y avait notamment des espèces de feuilles qui semblaient d'aluminium, qui n'en étaient pas du tout, qui étaient extrêmement solides. Qu'on n'arrivait pas à percer, même avec un marteau, qu'on n'arrivait pas à brûler. Et puis, on pouvait les froisser, mais ils reprenaient leur forme initiale, impeccablement. C'était ce qu'on appelle les matériaux à mémoire de forme. Ça, c'est un des matériaux les plus intéressants qu'on a trouvé.
Ouais.
Il y en avait d'autres qui étaient notamment aussi très intéressants. C'était des petites poutrelles qui avaient même des inscriptions sur les bords. Et ça a été décrit avec précision notamment par le fils du major Marcel, car quand il est revenu, il a passé la journée sur le terrain avec un collègue, le capitaine Cavite, il est passé par son domicile, il a réveillé sa femme et son fils, qui avait 9 ans à peu près, et il leur a montré ça pendant 20 minutes, et il se rappelle très bien, de ces débris. C'était des bons, très bons témoins que je connais, je l'ai rencontré plusieurs fois.
Ouais.
Donc, je pourrais comme ça vous passer une heure, l'heure entière à vous décrire les témoins, à énumérer tous les témoins
oui.
les uns après les autres.
Ouais.
Mais enfin, il y en a quand même qui sont vraiment très importants, qui méritent d'être cités.
Ouais. Je voudrais juste, pour que les auditeurs comprennent bien, hein, ceux qui ne sont pas familiarisés avec toute cette histoire,
oui.
expliquer un peu le timing, c'est-à-dire que Brazel, donc le fameux Mac Brazel, le rancher, est venu
oui.
apporter son sac de débris à Roswell.
Alors, il arrive le dimanche à Roswell,
voilà.
il vient voir le shérif. Le shérif appelle la base, et très vite, le commandant Marcel vient voir. Bon, il reçoit l'ordre du colonel Blanchard, qui est le patron des bombardiers atomiques, de partir immédiatement sur le terrain avec un collègue, le capitaine Cavite, qui est un jeune capitaine chargé du contre-espionnage. Lui. Et ils repartent avec Prazel qui les guide. Ils arrivent le soir, il est trop tard pour inspecter, ils crampent et mangent une boîte de conserve de haricots. Et puis, le lendemain, ils passent la journée à inspecter le terrain. Et c'est là, il a presque 1 kilomètre de long et 200 mètres de large. Et ça ressemble fortement au débris d'une explosion, comme s'il y avait un véhicule aérien donc, qui avait explosé en touchant le sol également. Et puis, à partir de là, il y a eu 2 autres sites qui ont été découverts.
Voilà.
On a découvert que Brazel et certainement Marcel avaient vu, Brazel leur avait montré un site tout proche où il y avait 3 cadavres, déjà. Et ensuite, il y a eu la découverte, beaucoup plus tard, un autre site important de toute cette histoire qui était à mi-chemin entre Roswell et ce champ de débris qui était à 120 km au nord. Donc environ à 60 km au nord de Roswell, on a découvert un autre site avec une navette peut-être, une sorte de navette de sauvetage si on veut, avec d'autres cadavres encore. Donc c'est une histoire compliquée qui s'est révélé petit à petit avec de nombreux témoignages.
Alors justement,
je sais pas si c'est à peu près clair.
Tout à fait. On va reparler de ces sites et notamment la raison pour laquelle finalement la chose la plus étonnante, mais on en reparlera tout à l'heure, le fait d'avoir révélé finalement au monde entier que un disque volant s'était écrasé.
Oui, c'est important et intéressant en effet. Oui.
C'est intéressant. Alors vous avez parlé des nombreux témoignages en faveur du crash d'un ovni. Selon vous, quels sont les plus importants? Moi, plusieurs m'ont impressionné. Évidemment, il y a la famille du rancher McBrazel, la famille du shérif. Et puis militaire, le général Dubose, et puis...
Alors, voilà. Donc déjà, parmi ces témoignages, il y en a un qui est tout à fait remarquable, c'est le général Dubose, qui était colonel à l'époque, c'était l'adjoint du général Ramey à Fort Worth, au Texas. On le voit sur les photos, il a participé à cette mise en scène, il faut bien l'appeler ainsi, du ballon météo. Et il a confirmé, il a signé une déclaration sous serment, on appelle ça un affidavit aux États-Unis, dans laquelle il confirme que c'était une mise en scène qui avait été réalisée sur ordre de Washington, le général McMullen à Washington. C'était ce qu'on appelle un cover-up, c'était un gros mensonge. Alors, la question est qui m'intéresse, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'était ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le communiqué de presse pour commencer en premier lieu?
Oui.
Parce que s'ils avaient vraiment voulu garder le secret, il ne fallait surtout pas en parler. Pourquoi ont-ils fait ce communiqué de presse? Alors, moi, j'ai pas mal creusé la question, j'en ai discuté avec les amis ufologues américains, et nous pensons que, en fait, après avoir découvert beaucoup de témoignages de l'époque, on se rend compte aujourd'hui que la nouvelle de la découverte de ce champ de débris et aussi la découverte donc du terrain des 2 autres sites avec des cadavres cette nouvelle commençait à se répandre un peu partout dans les environs. Et ils s'en sont rendus compte. Ils s'en sont rendus compte dès le lundi, le lendemain de la visite de Brazel. Ils se commençaient à se rendre compte que ça filtrait de partout. Donc, qu'il fallait. Alors, il y a eu une décision cruciale à prendre à ce moment-là, qui a été prise le mardi matin. On sait maintenant, parce que c'est l'ancien lieutenant Holt qui l'a révélé dans les années 2000, que le général Ramey, le colonel Dubose, sont venus à Roswell, et qu'il y a eu une réunion d'urgence dans le bureau du patron de Roswell, le colonel Blanchard, et c'est là qu'ils ont décidé de faire ce communiqué de presse pour le cas où ils ne pourraient, parce que leur premier réflexe des militaires, des politiques, c'est le secret. C'est une découverte extraordinaire, on garde le secret. Mais ils se sont dit qu'ils n'allaient peut-être pas y arriver à maintenir le secret. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce communiqué de presse. C'était un plan B, si on peut dire.
Ouais, c'est finalement d'une grande habileté, hein, parce que...
C'était très habile, en fait, parce que dans la matinée, ils ont réussi à prendre contrôle de tous les sites. Ils sont allés dardard encercler le grand champ de débris, et ils ont posté des soldats à tous les coins. Et puis, à partir de midi, ils se sont dit qu'ils pouvaient embrayer sur le démenti. Et ils ont commencé à mettre en œuvre le démenti qui a eu lieu donc au quartier général au Texas à Fort Worth. Voilà ce qui s'est passé en fait.
Alors ce qu'on pense, ce qu'on croit savoir, enfin ce qu'on sait, c'est que les débris ont été acheminés vers la base de Wright-Patterson.
Alors,
il y a
débris,
des témoignages.
Voilà. Les débris et les cadavres, il y a eu tout un trafic, si j'ose dire, d'avions, des bombardés V-29 et des quadrimoteurs de transport DC-4 et DC-54, la version militaire, qui ont transporté pendant plusieurs jours, ça a duré plus d'une semaine au moins, la récolte et le transport de tous ces débris dans différents lieux. Et principalement, bon, il y a eu des escales à Fort Worth au Texas, et puis tout cela a été acheminé à la grande base technique de l'armée de l'air américaine, c'était logique, ce qui est la base de Wright, qui s'est ensuite appelée Wright-Patterson, dans l'Ohio. Et c'est là que, selon de nombreux témoignages, et c'est encore une autre partie de toute cette histoire, qui ont été accumulés par ailleurs, et c'est sur cette base de Wright-Patterson qu'on a stocké l'OVNI et des cadavres.
Oui. Alors donc il y a de nombreux témoignages militaires aujourd'hui, des gens qui sous serment ont affirmé avoir convoyé les débris, pour certains d'avoir vu les humanoïdes. On va reparler de tout ça, mais je voudrais aussi qu'on parle des enfants, par exemple de Mac Brazel, et des enfants, la famille du shérif de Roswell,
oui.
Le shérif Wilcox, parce que là, on est dans le dramatique. Hein.
Oui,
Wilcox
en
a
effet.
Été... Ouais.
Il y a des aspects tout à fait dramatiques, en effet. Le shérif Wilcox et sa femme Inès Wilcox ont révélé à, non pas à leurs enfants directs, à leur fille, mais à leurs petits-enfants, curieusement, sont des choses qui peuvent arriver en famille. C'est que
oui.
Parfois, il y a plus de confiance entre les grands-parents et les petits-enfants. En tout cas, ça semble être le cas. Ces petites filles ont révélé que, enfin, leur grand-mère, Inès Wilcox, leur a raconté que leur grand-père, le shérif Wilcox, avait été contraint par les militaires d'aller menacer les témoins des environs, de leur dire de se taire. Ensuite de quoi, et menacer, c'était pas pour rigoler, c'était menacer de mort. Hein. Et ensuite de quoi, ils ont été eux-mêmes menacés de mort s'ils parlaient, le shérif et sa femme. Donc, et ça l'a complètement démoli, ça l'a détruit moralement. Il ne s'est pas représenté pour être élu shérif, parce que les shérifs sont élus là-bas. Et il a fini dans un asile psychiatrique, pratiquement. Et puis, c'est également tout à fait dramatique, c'est ce qui est arrivé à l'un des fils de Brazel,
ouais.
Et des voisins aussi. La famille, il y avait une famille. Donc Brazel avait été accompagné d'un jeune fils, une famille, des voisins, des amis et voisins, et ces deux jeunes garçons ont eu leur vie complètement bousillée, en fait. C'est raconté dans le dernier livre, là, Les enfants de Roswell, c'est très bien raconté, par Tom Carr et Donna Schmidt. Ça a brisé leur vie, ces gens-là.
Oui. Oui. Et alors, une chose à ne pas oublier non plus, c'est que ce fameux Brazel, donc le rancheur qui a découvert les débris,
oui.
A été un moment, donc...
Lui-même a été extrêmement perturbé.
Il a été perdu, il a été retenu à la base
il
pendant plusieurs jours.
Il a été retenu à la base pendant une semaine, pratiquement. Ses deux fils directs et aînés ont appris ça dans la presse, le journal d'Albuquerque. Ils sont venus pour s'occuper des moutons et des chevaux, et le fils aîné, Paul Brazel, a même était empêché pendant 2 jours de pénétrer sur le terrain. Vous vous rendez compte? Alors, pour aller soigner les moutons, donner à boire aux moutons et aux chevaux, c'est fou comme histoire, quand même. Et puis, il s'était... On est certain, avec tous ces témoignages, et l'autre fils a confirmé tout cela, Bill Brazel, il est devenu un témoin important à son tour par la suite. il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
Qu'il se soit passé quelque chose d'extraordinaire en juillet 1947 à Roswell, nul ne peut en douter. Quelle est la nature de cette chose? Peut-être l'apprendrons-nous la semaine prochaine en écoutant la deuxième partie de l'entretien que nous a accordé Gildas Bourdet, spécialiste de cette question du crash supposé d'un engin inconnu à Roswell en 1947 et dont vous trouverez la somme des recherches dans le livre qu'il vient de publier aux éditions Presse du Châtelet, Roswell, la vérité. À la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien passionnant.
Watch it.